d'être à l'écoute de CFM Radio jusqu'à la demi. Ce magazine s'intéressera plus particulièrement au festival de Cordes sur Ciel qui est en cours actuellement dans la cité médiévale. Les rendez-vous de ce mercredi à midi, le Jardin des Paradis et l'écrin du traditionnel moment de lutherie hein, qui est intitulé « L'arbre et le violon » avec le luthier Christian Urbita et la compositrice Elena Rikova. À 18h à l'église de Saint-Michel, le trio Pantoum interprétera des œuvres de Prokofiev et Shostakovitch. Et pour le grand concert de ce soir, toujours à l'église Saint-Michel, c'est à 20h30, les grandes voix slaves et les mélodies d'Europe de l'Est seront chantées par la mezzo-soprano Eleodore Pancrassi, qui sera accompagnée au piano par Virgile Roche. Avec nous en studio, le directeur artistique de ce festival, Antoine Pecker. Bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là, Antoine, également avec nous, l'un des membres du trio Pantoum, le violoncelliste Bogen Park. Bonjour Bogen.
Bonjour Jacques, bonjour.
Alors Bogen, première fois à cordes.
Oui, première fois à cordes, première fois à la radio aussi.
Ah ouais? Ah,
c'est une. Plein de premières ce matin.
C'est ça.
Une
ouais.
Journée de première, quoi, une journée de première. Bien arrivé à cordes?
Ah oui, très bien bon. Installé.
Parfait, toi tu viens d'où? De quelle région?
Alors moi je viens de Reims.
D'accord.
Voilà, ça fait quelques années que j'habite à Paris maintenant.
Ouais, ok, originaire de Reims. Bon, l'église Saint-Michel c'est un peu plus petit que la cathédrale de Reims, ça ira?
Oh, elle est tout aussi belle.
Antoine Pecker, comment se déroule le festival qui a démarré déjà le week-end dernier en grande pompe là?
Eh ben oui, on peut faire presque un petit bilan à mi-parcours hein, aujourd'hui Jacques, et on est ravis. Moi je tiens à dire, je suis ravi pour plusieurs choses, pas du tout une forme d'autocongratulation, parce que honnêtement, la période incitait à beaucoup de vigilance. Vous le savez, la sortie de la crise sanitaire est très compliquée pour le secteur culturel. On voit beaucoup de manifestations qui ont du mal à capter le public,
oui.
Qui ne revient pas forcément, qui ne reprend pas forcément le chemin des lieux culturels. Et ici, à Cordes, on en est ravis. Il est là, le public, il est bien là. Déjà à travers différents concerts, on a eu une soirée d'ouverture avec un jeune pianiste russe absolument éblouissante.
Roman Borisov.
Exactement, il a 19 ans, absolument épatant. Et pas juste d'un point de vue technique, d'un point de vue musical. Il a vraiment des choses à raconter, un nom à suivre. Et puis aussi, on a, vous le savez, à Cordes, on aime bien expérimenter les choses. On l'avait fait déjà en avant-première avec un concert de musique médiévale où les chanteurs étaient au milieu de l'église, une ambiance bien particulière. Et puis hier, on a eu le roman Lolita de Nabokov, qui est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature moderne, mis en musique avec Bertrand Chamaillou au piano et une jeune comédienne, Esther Comar. Donc vous voyez, on est aussi là, à Cordes sur Ciel, vraiment dans l'idée de laboratoire. On invente, on prend des risques, on invente de nouvelles formes et on crée ce lien avec ce public aussi grâce à qui? Ben grâce, il faut le féliciter, à tous les bénévoles, les stagiaires, toute l'équipe de l'ACADOC, vous savez, qui sont à nos côtés. Et vraiment, moi, ça me nourrit, en fait, chaque jour ici à Cordes. Et l'emploi du temps, il est bien sportif, hein, 3 concerts par jour, on s'ennuie pas. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me nourrit chaque jour. Et donc, un grand merci à tous ceux et à toutes celles et ceux qui nous suivent.
Tu parles de sport, tu es venu à vélo, de deux, demain, la musique et sport vont se côtoyer hein, pour le concert de 18h à la Maison Fond Pérouse. Il y a cette idée toujours que l'on soupçonne chez toi, c'est de dépoussiérer complètement et de décloisonner les musiques dites savantes, un peu comme ça, les musiques classiques. Tu es tout le temps en train de rechercher des idées pour attirer un nouveau public aussi.
Mais bien sûr, parce que malheureusement, et ça a été la faute de plein de monde, notre faute aussi, parfois même à nous, musiciens, aux directeurs de structures culturelles, d'avoir mis la musique classique un peu à part. Or, la musique classique, elle est partout et elle est en lien avec toutes les disciplines. C'est vraiment ce qu'on veut montrer, en lien avec la littérature, on en a parlé avec ce roman de Nabokov, en lien avec le théâtre, avec l'engagement géopolitique, ça va être le cas notamment avec les textes d'Anna Politkovskaya qui vont ponctuer le concert du trio Pantoum, et là par exemple avec le sport. Alors vous savez ce que je vais faire Jacques à ce concert-là? Je vais faire du ping-pong. Parce que Elena Rikova, notre compositrice associée, elle est incroyable. Elle est prof à Harvard, vous savez, elle est originaire de Russie, elle est prof aux États-Unis et elle conçoit la musique comme des performances. Et donc là, on va faire avec Elena un duo table de ping-pong et pomme de pain. Je n'en ai pas plus pour venir là. Et par contre, l'idée, c'est de montrer comment la musique et le sport, en Russie en particulier, ont obéi aussi à des questions politiques, parce que pour, évidemment, c'est une sorte, vous savez ce qu'on appelle le soft power,
oui.
C'est-à-dire la diplomatie douce, on passe pas par les armes, mais on passe par les Jeux Olympiques, par exemple, évidemment, par la musique, ben pour convaincre les masses et aussi agir à l'extérieur des frontières. Donc c'est vraiment intéressant, on va avoir un spécialiste de ces questions qui va venir à Cordes, et oui, moi j'adore ouvrir les portes. Je trouve, globalement, c'est plus sympa d'ouvrir les frontières que de les fermer, c'est plus sympa d'ouvrir les portes d'une maison que de rester enfermé, donc grosso modo, c'est la même chose pour la musique. ouvrons et voyons ce qui se passe autour de nous. Hein.
Le tournoi de ping-pong, c'est demain à 18h à la Maison Fond, Pérou. Ouais.
J'attends les supporters. Hein.
Ouais. Et c'est Lucas Aubin, qui est docteur en, ouais, en études slaves et spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport, qui sera l'un des intervenants au cours de ce concert. Le concert de 18h, c'est vraiment un concert souvent un peu d'ordre pédagogique, je veux dire. Hein.
Complètement, ça dure une heure, il n'y a pas d'entracte. Donc vraiment, c'est souvent un focus sur une heure ou sur un compositeur, sur quelque chose de spécifique par rapport aux grandes soirées, le soir 20h30, avec entracte. Donc on a vraiment un autre esprit. Et le concert de midi, là, c'est une demi-heure, c'est gratuit dans la ville. Donc voilà, chaque concert, chaque jour a un peu sa particularité.
Alors cette année, l'édition du festival, je le rappelle, porte sur les musiques slaves pour mettre à l'honneur l'une des grandes aires en musique classique, que ce soit au niveau des compositeurs ou de ses musiciens. Est-ce qu'il est possible de faire une sorte de hiérarchie dans l'influence soit des pays, soit des aires? Je pense à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Russie notamment. Est-ce qu'on peut hiérarchiser un peu l'impact de chacune de ces aires culturelles là au niveau de la musique classique?
Alors je pense que ça dépend des périodes. Il y a eu vraiment des périodes où on a vu notamment par exemple Vienne, capitale de la musique.
Oui, l'Autriche.
Voilà, exactement. Fin du XVIIIe siècle, c'est l'époque de Mozart, c'est l'époque de Haydn, c'est évidemment une ville qui est très importante. À d'autres moments, Paris va jouer un rôle central, avec notamment l'Opéra de Paris, qui va drainer autour de l'opéra quantité de compositeurs. Donc on va le voir vraiment à différents moments. Le début du XXe siècle, pour la musique française, Debussy, Ravel, c'est un moment évidemment très important. Souvent lié aussi à la question politique. Regardez comment la Révolution russe, par exemple, de 1917, elle a eu un impact très clairement sur l'écriture de la musique russe. Une personnalité comme Shostakovich en a été très clairement directement inspirée. Donc on voit vraiment que souvent c'est lié à des évolutions politiques, géopolitiques. Et derrière, la musique, il y a eu à différents moments des éclats dans différentes zones géographiques. Aujourd'hui, ce qui est génial, et notamment quand on voit les compositrices, les compositeurs actuels, on a eu une académie de musique contemporaine qui s'est déroulée à Cordes la semaine dernière, avec justement des compositeurs du monde entier, de Chine, d'Indonésie, d'Espagne, de partout. Et en fait, ce qui est réjouissant, c'est que de partout, justement, il y a des courants très différents. Esthétiquement, il y a une ébullition de dingue. Il y a plus tellement de dogmes ou de dire c'est là que ça se passe. En fait, ça se passe un peu partout.
Et il y a toujours cette influence des musiques populaires que l'on ne soupçonne pas toujours dans la musique classique, et pourtant ça a toujours été le cas depuis des siècles et des siècles, et ça aussi ça doit se refléter dans les compositeurs, on va dire, contemporains.
Mais bien sûr, parce qu'en fait il y a eu une sorte d'accaparation. Je vais faire mon marxiste, allez, ce matin. Non, mais il y a eu une accaparation par la bourgeoisie d'une certaine façon,
oui.
De la musique classique, qui d'un seul coup a donné des codes. Par exemple, les applaudissements. Faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on applaudissait à mort entre les mouvements, on bissait même les mouvements. Et là, d'un seul coup, moi j'entends parfois des gens dire non, faut pas applaudir entre les mouvements. Mais sur quelle raison, en fait? Vous connaissez un seul musicien qui sera triste d'entendre des applaudissements après un mouvement? Moi, je sais pas. Personnellement, on est content. Quand on entend une ouverture de paquet de mouchoirs en plein milieu d'un mouvement lent, ça, c'est pas très drôle. Mais par contre, quand on entend un public applaudir, ça, évidemment, c'est chouette. Donc, en fait, il y a eu une sorte d'accaparation, et notamment qui a voulu oublier ce lien aux musiques traditionnelles, aux autres musiques. Et moi, l'idée, c'est évidemment de reconnecter ça aux racines. Et qu'est-ce que serait Bartok sans la musique traditionnelle? Qu'est-ce que serait Haydn sans ces origines-là? Donc je pense qu'il faut vraiment revenir parfois à l'origine même du geste musical pour en comprendre aussi sa singulière modernité.
Et si les noms de Prokofiev, Tchaïkovski ou Rachmaninov parlent un peu plus, hein, il y a certains noms qui sont un peu moins connus, comme celui d'Antonín Dvořák, un compositeur tchèque qui est au répertoire du grand concert de ce soir et que l'on va entendre ici par la voix de Barbara Hendricks. Thank you. Mon chant retentit, une composition du tchèque Antonín Dvořák, qui est chantée ici par Barbara Hendricks. Et ce soir à Cordes sur Ciel, d'autres chansons tziganes et des airs et romans se seront chantées cette fois-ci par la mezzo-soprano Éléonore Pancrassi. C'est à l'église Saint-Michel de Cordes sur Ciel pour le festival de Cordes sur Ciel. C'est à partir de 20h30. Antoine Péquer, quelques mots sur Éléonore Pancrassi, qui est déjà venue, me semble-t-il, au festival de Cordes.
Et voilà, vous savez tout, Jacques. J'ai plus rien à vous apprendre. Elle est venue l'année dernière et ça a été un tel bonheur de la voir, parce que c'est donc une chanteuse, c'est une mezzo-soprane, elle vient de Corse, elle a ce tempérament incroyable, hein, attention, et donc ce qui est génial avec elle, c'est que non seulement elle a une voix de fou, mais elle a un abattage vocal, elle a une présence scénique. J'avais une copine qui était dans la salle et qui me disait, mais c'est la Beyoncé du classique.
Ah ouais.
Éléonore Pancrassi. Et donc je prends cette image parce que c'est vraiment ça. Et ce qui est aussi beau, c'est qu'elle avait un contact avec les équipes. Et donc même parmi les bénévoles étaient venus me voir du festival, me disant, oh, on aimerait bien qu'elle revienne. Alors,
elle est là.
Elle est là et elle va faire ce programme. Donc allez-y. Là vraiment, si vous êtes déçu par Éléonore Pancrassi, je vous rembourse le billet. Hein. C'est pas un
problème. Elle sera accompagnée par Virgile Roche, hein, qui est pianiste et qui fait partie du trio Ponto, qui va déjà s'installer à l'église Saint-Michel de Cordes à 18h, hein, qui va en quelque sorte réchauffer ou rafraîchir cette église Saint-Michel de Cordes. Bogen Park, toi tu fais partie de ce trio Pontoum, tu seras au violoncelle, tes deux compères sont donc Virgile Roche qui est au piano et Hugo Médère au violon. Qu'est-ce qu'il y a au programme tout à l'heure là, à 18h?
Alors tout à l'heure, on va mettre en fait en lien des extraits du livre d'Anna Politkovskaya. Et tout ça avec donc les visions fugitives de Prokofiev pour piano, donc qui seront jouées par Virgile, et le deuxième trio de Shostakovich, donc une œuvre phare du XXe siècle, un chef-d'œuvre du compositeur. Et donc ça a pas de lien forcément direct en fait entre les œuvres, mais c'est enfin entre le trio de Shostakovich et le bouquin d'Anna Politkovskaya. Mais on a essayé de choisir des extraits, voilà, pour essayer de contextualiser dans quel état d'esprit en fait ce genre de pièces ont pu être écrites.
Ouais.
Et voilà.
Anna Politkovskaya, qui était une journaliste et une militante, oui, russe, assassinée en 2006.
C'est ça, si 2006, c'est bon, ouais, le jour de l'anniversaire de Poutine.
Voilà. D'accord, ouais. Donc il y a une forme d'engagement, je vais dire comme ça, dans votre concert de tout à l'heure.
C'est ça, ouais, voilà. Alors, c'est Antoine qui nous a suggéré cette idée-là, en fait. Et en fait, on s'est prêté au jeu. On a essayé de trouver des extraits qui, on peut bien sûr pas raconter tout le livre quelques phrases, c'est pas possible. Mais on a essayé de trouver quelques extraits qui peuvent inspirer à quelques types d'ambiance qu'il pouvait connaître dans cette époque-là, dans ce pays. Donc, il peut s'agir de l'armée russe, mais également le froid qu'on pouvait y trouver, etc. Mm-hmm. Et tout ça, toutes ces choses-là qui ont forcément inspiré Prokofiev et Shostakovich à l'écriture de leurs pièces.
Mais tiens, parlons-en de ces deux grands compositeurs, hein, russes, Prokofiev et Shostakovich, parce que souvent, dans leurs caractéristiques même humaines, il y a souvent des détails qui sont très importants pour comprendre leurs œuvres. Est-ce qu'il y a des notions comme ça que l'on peut retenir de Prokofiev ou Shostakovich, que ce soit artistiquement ou humainement?
Alors, franchement, je ne les ai pas connus, hein, mais Prokofiev, je pourrais m'en dire, je sais que Shostakovich était quelqu'un de très politisé. Alors bon, c'est je sais pas si c'est ça que vous entendiez par humainement.
Oui, oui.
Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui était très impliqué dans la politique de cette époque-là, et ça se ressent dans ses musiques qui sont très Ils suivent vachement en fait la politique du moment, de ce que voulaient les gens à ce moment-là.
Ou le gouvernement à ce moment-là, oui.
Voilà,
ouais,
c'est ouais. Ça.
Ben souvent, les gouvernements leur passaient commande aussi, non,
oui.
à ces artistes-là.
C'est ça.
Alors, parlons maintenant du trio Pontoum, hein, que l'on présente comme l'un des ensembles de musique de chambre les plus prometteurs d'Europe. Vous vous êtes rencontrés au conservatoire et ça fait 6 ans maintenant que la formation existe, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein,
ouais,
c'est
ouais.
Ça. C'est plutôt Hugo qui vous a réunis comme ça un jour en disant tiens, si on monte un trio.
Alors pour être très honnête, moi j'étais pas dans le trio à la toute création, donc mm-hmm. je peux pas vraiment dire exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas le trio existe depuis 2016. Je les ai rejoints il y a maintenant bientôt 3 ans.
D'accord, ouais. Voilà.
Et on s'est rencontrés au conservatoire, en fait. On est de la même génération, même de la même promotion, pour être plus précis, en fait. Mm-hmm. Et du coup c'est très naturellement qu'on s'est retrouvés à jouer ensemble et qu'on continue à faire ça avec plaisir.
Alors c'est piano, violoncelle et violon. Vous collectionnez les prix et les distinctions. C'est un peu comme un groupe de rock qui participe à des tremplins de musique. Est-ce que dans le champ des musiques classiques, c'est impératif pour sortir un peu du lot d'avoir toutes ces participations dans les prix? Parce que j'ai arrêté de faire la liste au bout d'un moment de tout ce que vous avez déjà eu.
Bah franchement, on aimerait tous pouvoir faire autrement. On aimerait tous pouvoir passer à côté de ça, de pouvoir jouer sans avoir besoin de faire des concours. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une étape qui est presque obligatoire, en tout cas pour essayer de se faire démarquer. Il ne s'agit pas forcément de tous les gagner, ou donc même pas forcément d'en gagner un, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être intéressant médiatiquement pour un certain réseau, pour qu'on puisse nous connaître tout simplement.
Vous vivez de la musique aujourd'hui? Quand je dis vous, c'est toi et tes copains?
Oui.
D'accord, intermittent.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Intermittent du spectacle.
Est-ce que le trio Pontoum a un répertoire un peu de prédilection ou bien un style qui vous sied plus qu'un autre?
On est évidemment très rattaché à la musique française, hein, d'où le nom Pontoum d'ailleurs, qui fait référence au deuxième mouvement du trio de Ravel. C'est aussi une forme de poésie malaisienne, bien sûr. Donc on est assez attaché à la musique française, pas forcément la musique française très connue d'ailleurs, pas forcément le trio de Ravel en particulier. Là récemment, on a joué le trio de Gabriel Pierné, par exemple, qu'on a beaucoup aimé travailler. On aime beaucoup le trio de Fauré aussi. En fait, il y a un répertoire français dans le trio avec piano qui est assez intéressant, et plein d'œuvres sont assez peu connues, comme les 2 pièces de Lili Boulanger aussi, entre autres. On aime bien aussi travailler, voilà, ces genres de pièces qui sont pas encore très défendues aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Alors, Lili Boulanger, c'est parce que c'était une femme, mais il y a aussi le trio de Gabriel Pierné, tout simplement parce que c'est très difficile, en fait.
D'accord.
Et pas forcément très accessible de premier abord. Et du coup, c'est des choses qui ont été un peu oubliées et qui sont très intéressantes, qu'on aime bien nous défendre de notre côté.
Alors, toi, tu joues au violoncelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton apprentissage avec ce violoncelle? Tu nous as parlé de conservatoire. Tu as commencé où, comment, à quel âge?
Alors, j'ai commencé à 6 ans au conservatoire de Reims. J'ai suivi un parcours relativement classique, en fait, parce que j'ai tout de suite été mis dans les classes à horaires aménagés. Donc, dès l'école, le collège, ensuite la classe TMD au lycée. Donc, il m'a permis de passer un baccalauréat assez spécialisé dans la musique. Donc, mon emploi du temps a été aménagé pour que je puisse travailler mon instrument. C'est seulement vers 16 ans que je suis arrivé à Paris, du coup, pour pouvoir étudier avec certains professeurs, etc.
Donc au conservatoire, donc musique, beaucoup de musique.
Ça a été essentiellement ça,
ouais. Ouais.
C'est assez classique, ouais.
Alors, et ton violoncelle, est-ce qu'il a un nom, une particularité? Tu es venu ici à la radio avec lui, il est enfermé là dans sa housse, mais je ne le vois pas.
Alors, il a un petit nom, effectivement, il s'appelle Lex Navarra, tout simplement, parce que c'était le violoncelle d'André Navarra.
D'accord.
Voilà, ouais. C'est un violoncelle qu'on me prête gracieusement, donc c'est la fondation Zilbert avec Laurent Pal qui me prête ça, merci à eux d'ailleurs.
D'accord, il date de quand, il a quel âge?
De 1861.
D'accord. Et on se balade comme ça avec un instrument de 1861 sur le dos tranquillement.
Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas laissé dans la voiture.
Dis-nous, Bogen, ici on est sur une radio rock, plutôt rock, hein, donc qui dit rock dit un peu rebelle, dit un peu dingue parfois. C'est quoi le truc le plus dingue que le trio Pontoum ait fait? Même on répète, hein, je ne sais pas si des fois on répète, vous vous dites tiens, si on essayait telle chose de Shakira ou de Maître Gims.
Oula. Alors,
ça n'est pas arrivé, ça.
Je vous cache pas que oui, on se prête pas beaucoup à ce genre d'exercice. Quelque chose de dingue, qu'est-ce que je pourrais dire sans trop mouiller mes collègues? Non, il nous arrive, qu'on va dire, quand on fait des répétitions après 21h, de faire des répétitions, ce qu'on appelle des répétitions apéro, c'est-à-dire qu'on répète tout en buvant des bières. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça.
D'accord. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'après le concert de 18h, là, je viendrai avec le micro, tu me raconteras, une fois que vous aurez joué, tu pourras me raconter les choses un peu dingues que vous faites. Le Festival de Corte au Ciel, c'est jusque vendredi, et avant de voir la suite du programme avec toi, Antoine Pécan, on va écouter une œuvre de Prokofiev, c'est une œuvre un peu majeure, hein, que tout le monde devrait reconnaître au minimum. Je ne pense pas qu'elle soit au programme, hein, que le trio Prontum nous propose ce soir, même je suis sûr que ce n'est pas au programme de ce que vous allez nous proposer à 18h, mais je pense que les auditeurs de CFM Radio reconnaîtront ceci. Dance of the Night, Prokofiev sur CFM Radio. Vous voyez, hein, la musique classique, elle est partout. Ils sont partout, dans les ascenseurs, dans les sonneries d'attente, de téléphone, et aussi sur CFM Radio, votre radio à l'esprit rock, complètement rock, hein, vous le voyez, pour cette semaine où nous consacrons tous nos magazines au Festival de Cordes sur Ciel. On parle de musique de chambre, de musique classique, on parle des instruments aussi, avec les différents artistes qui sont invités pour ce festival. Alors Antoine Pécœur, il y a des choses à écouter, bien évidemment, au Festival de Cordes sur Ciel, mais il y a aussi des choses à voir. Je pense à l'exposition Atlas, l'Atlas d'Elena Rykova.
Mais oui, on a quand même de la chance à Cordes-sur-Ciel, village de moins de 1000 habitants, hein, si je ne me trompe pas, et on a un musée d'art moderne et contemporain. Ça, c'est quand même incroyable.
C'est chouette.
Quelle chance, hein, quand même. On a un super théâtre colombier, on a ce musée-là, on a vraiment des lieux super. Et là, pour moi, l'idée, c'était de nouer ces partenariats, toujours l'idée de faire dialoguer la musique avec d'autres arts. Et là, Elena Rykova, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas juste une compositrice. Ça, vous savez, moi, déjà, en arrivant ici, j'ai voulu mettre à l'honneur les compositrices, parce qu'on a très longtemps mis à l'honneur les compositeurs, on a un peu oublié que les femmes faisaient de la musique, c'est dommage. Et donc maintenant, on s'en rend compte, enfin, et Elena est une compositrice absolument incroyable. Ses œuvres, en fait, c'est des performances, mêlant la musique à d'autres formes, au théâtre, aux arts visuels, et ainsi de suite. Et donc, à partir de 2015, elle a changé son système de notation musicale, les partitions, pour plus faire le truc classique avec les barres de mesure, les trucs qui rappellent les pires années de solfège. Et par contre, au contraire, c'est des dessins. Des dessins incroyables, les musiciens sont dessinés, il y a un geste graphique incroyable pour expliquer, par exemple, il y a une œuvre où les musiciens doivent être habillés comme des chirurgiens et ils dissèquent l'intérieur d'un piano, comme un corps humain, c'est absolument incroyable. L'œuvre dont je vous parlais en table de ping-pong et pomme de pin, vous imaginez bien qu'on peut pas juste mettre des notes sur une portée. Donc pour raconter ça, elle fait des œuvres qui sont graphiquement splendides, d'où l'idée, tata, de les exposer au musée d'art moderne et contemporain, où vous aurez donc une sélection de ses partitions. Aussi, vous pourrez entendre sa musique. Et puis, il y aura même des partitions originales à l'accueil. Comme ça, on peut vraiment feuilleter ses partitions et comprendre comment le geste musical et le geste d'art visuel, eh ben, il peut être parfois extrêmement proche.
Et on peut se rendre au château de Sors demain à 11h pour pique-niquer avec Elena Rykova, discuter aussi avec elle de musique, de dessin, de la vie, de Harvard, bref, on peut parler de tout. Avec elle, elle sera 11h au château de Sors et c'est gratuit ce rendez-vous-là au château de Sors à 11h.
Alors, il est gratuit ce...
Oui. Musique, pique-nique dans le parc et dégustation des vins de Sors. Donc je pense qu'il doit y avoir une petite participation.
Il doit y avoir, le problème, vous voyez, d'un directeur artistique, c'est qu'il ne sait pas forcément répondre à ces questions-là. C'est pas bien. Mais il a une équipe formidable qui, elle, sait y répondre.
Et puis on peut se rendre sur le site aussi
mais,
du festival.
Mais par contre, surtout je m'en sors bien, je vais vous raconter un autre truc. Non, mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ça c'est vraiment important au Jardin de Sors. Parce que le château de Sors, ils font des vins magnifiques, ça c'est important. On aime bien et les châteaux et le vin dans la région, et moi aussi. Et surtout, on va accueillir une musicienne ukrainienne aussi. Et là, c'est une nouveauté qui n'est pas inscrite dans le programme. Elle s'appelle Lyuba Titorenko, elle est claveciniste. Elle va venir jouer là, elle est ukrainienne et pour nous c'était très important évidemment de montrer notre solidarité avec le peuple et avec les artistes ukrainiens, évidemment suite à l'invasion de ce pays par la Russie. Donc pour découvrir une musicienne ukrainienne absolument formidable, rendez-vous donc 11h demain au château de Sors avec aussi une dégustation de vin, peut-être une participation aux frais, mais de toute façon vous savez voilà, c'est toujours important et quand vous donnez de l'argent pour la culture, c'est pas comme que si vous en donnez à des grandes majors ou à des multinationales qui font de l'optimisation fiscale, l'argent là va simplement à une association qui essaye de rémunérer au mieux ses artistes.
Les artistes présents.
Exactement, c'est plutôt pas mal, non ?
Eh bien ça, voilà. Et en plus ça fait 51 ans que ça dure maintenant.
Hein. Exactement.
Le festival de Cordes sur Ciel souffle déjà sur un nouveau demi-siècle, hein, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce studio pour nous parler de votre musique, de votre attachement à ces musiques que l'on dépoussière, la musique classique. Merci beaucoup Antoine Pecker, Bogen Park, tu salues tes deux compères du trio Pantoum. Bon concert tout à l'heure. C'est à 18h à l'église Saint-Michel, un artiste, une œuvre, l'art du trio. C'est le trio Pantoum qui jouera Prokofiev et Shostakovich. Merci beaucoup.
Merci Jacques, bonne journée. Et le classique c'est rock.
N'est-ce pas? Vous êtes de passage dans la région, sachez que CFM Radio s'écoute où vous voulez, des quatre coins du monde, via notre site internet cfmradio.fr. Les informations dans quelques secondes, après quelques mesures de Tchaïkovski à la sauce rock.